France Inter.
Bienvenue dans l'émission « Au livre, etc. » Aujourd'hui, deux livres qui interrogent notre façon de regarder le monde et la manière dont l'art, qu'il soit urbain ou muséal, peut transformer une vie.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au livre, etc. Lilia Hassel.
Nous recevrons d'abord Camille Goudeau pour Crache le soleil chez Michel Lafon. Ce deuxième roman suit Éléonore, une jeune femme qui a fui une relation violente et qui tente de se reconstruire à Paris. Elle travaille au ministère du Travail, traverse une ville agitée par un mouvement social et voit soudain son visage apparaître en street art sur les murs. La voilà propulsée dans une visibilité qu'elle n'a pas cherchée. Le texte alterne entre sa voix et celle de Félix, restaurateur malvoyant pour qui les couleurs sont un monde. C'est un roman de renaissance très sensoriel où l'art devient un refuge et une façon de reprendre sa place. Puis nous parlerons du livre de Daniel Pénac et du photographe Laurent Mallet, Le roman des regards, publié chez Philippe Ray. Tout part d'un geste discret. Laurent Mallet photographie les visiteurs de dos, absorbés par les tableaux. Daniel Pénac le suit dans les musées et raconte cette collection de rencontres minuscules où un visage, une posture, une couleur répondent à une œuvre. Le livre explore la magie du regard, ce moment où l'art nous saisit sans qu'on s'en rende compte. Deux livres assez différents donc, mais une même ambition, montrer comment l'art réveille, révèle et parfois sauve. Vous écoutez Au livre, etc. C'est parti.
Au livre, etc.
Camille Goudeau, Daniel Pénac, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Dans vos livres se pose la question du regard, comme je le disais en introduction. Camille Goudeau, votre héroïne, Éléonore, dans Crache le soleil, voit son visage apparaître sur les murs de la capitale. Chez vous, Daniel Pénac, des visiteurs anonymes sont saisis par le regard d'un photographe. Ils sont capturés pendant qu'ils regardent eux-mêmes des œuvres d'art. On trouve d'ailleurs les photos à la fin du livre. Qu'est-ce qui vous intéressait, tous les deux, dans ces formes d'exposition subies, Daniel Pénac ?
Dans mon cas, les foules de visiteurs des musées sont totalement anonymes, vécues comme des encombrements plutôt que comme des personnes. Elles sont toujours entre nous et le tableau, etc., etc. Et puis, un jour, j'ai rencontré un photographe qui individualisait ces regardeurs de tableaux, qui non seulement les individualisait, mais trouver un nombre de correspondances, d'analogies inouïes entre chaque personne qui regarde une toile. Ça peut être une toile de Miro, de Chagall, de n'importe qui. Et du coup, les visiteurs de musées retrouvaient une espèce de dignité incroyable. Ils faisaient, sous les yeux de Mallet, ce photographe, Laurent Mallet, ils font pratiquement partie de l'œuvre qu'ils regardent. Et ça, ça m'a scié, ça m'a émerveillé.
C'est intéressant cette question du regard, parce que j'allais parler de double regard, mais en fait, il y en a trois. Il y a votre regard, qui regardait le photographe, qui photographie le visiteur, qui regarde
la toile. Il y en a même un quatrième, qui est très souvent le regard de la personne représentée dans la toile, du modèle du peintre.
Oui, ça, c'est figuratif.
En fait, il y a une quantité de regards. Tu as le regard du peintre sur le modèle, le regard du modèle sur le spectateur, parce que le modèle, maintenant, pour l'éternité, il propose un regard. Et tous les spectateurs qui vont passer devant lui vont
se
sentir regardés.
Qui écrivez
il y a le regard de Mallet sur l'ensemble et le regard de moi qui tombe sur ce type par hasard. C'est d'où le roman des regards.
Et pour vous, alors, Camille Goudeau, pourquoi avoir eu envie comme ça d'écrire sur une exposition, d'exposition d'une femme qui n'a pas choisi d'être exposée ?
Parce que d'abord, le projet, c'était d'écrire sur une forme d'anonymat. C'était d'écrire, notamment sur la fonction d'hôtesse d'accueil qui est le métier d'Éléonore et qui est complexe parce que dans certains endroits, ça peut être considéré comme une mise en location du corps avec le port d'un uniforme, une tenue particulière, des phrases à dire. Donc c'est un peu comme ça, une posture. En fait, en parlant de cet anonymat, j'ai eu envie de le faire sortir et de le faire exister autrement. Et finalement, je l'ai rendu, j'ai rendu l'invisible ultra visible. C'était ça le projet. Avec Éléonore.
Vous avez ça en commun avec,
oui.
Avec Daniel Pénac, c'est vrai ?
Oui, et c'est l'analyse que Camille fait de l'hôtesse d'accueil, elle est très exhaustive et c'est formidable.
Camille Goudeau, votre livre s'ouvre par le départ de votre héroïne, Éléonore. Elle quitte un compagnon violent et elle lui écrit ces mots. « Chérie, adieu, je m'enfuis, terminé la bringue, je sors de l'appartement presque en courant, je reviendrai pas. Comme si une balle tirée en plein dans le dos me projetait vers l'avant, hors de moi-même. Je longe la nationale, les maisons dégueulasses et grises et brunes qui l'entourent, les petits immeubles sales, figés, morts. » Pourquoi avoir voulu raconter ce qui se passe après une relation violente, Camille Goudot ?
Parce que c'était important pour moi de raconter comment une violence, elle peut rester pendant longtemps, en fait, après une séparation. Parce que souvent, on parle d'une relation qui est ce qu'elle est, d'un personnage qui s'en va, d'une fin, etc. Mais en fait, après, c'est loin d'être terminé. Quand quelqu'un s'en va comme ça, c'est pas juste la distance du corps qui fait qu'on est sorti de la violence. La violence, elle reste longtemps, sur les mois, sur les années après. Et moi, ce que je voulais raconter, c'est comment quelqu'un de très très abîmé comme ça peut progressivement se sortir de la violence. Et pendant tout le roman, elle est encore habitée par le spectre de ce personnage qu'elle appelle chérie, en fait, une bonne partie. Et petit à petit, elle se défait de l'emprise après être partie.
Oui, parce que comme ça, c'est vrai que ça a l'air terne et gris, notamment cette description du début. Mais les couleurs sont au cœur de votre roman. C'est aussi un roman sur la couleur, Camille Goudot.
Oui, c'est complètement un roman sur la couleur. Je suis partie... j'y suis allée un peu fort. Je suis partie sur un hiver glacial. Oui. Vraiment un noir et blanc très franc pour me rediriger petit à petit, comme mon personnage réapprend une forme de parole et réapprend à exister vers la couleur. En fait, je voulais juste faire évoluer tout un paysage avec elle pour montrer ça, parce que Paris, c'est un petit peu un personnage dans ce roman aussi.
C'est réussi, Daniel Pénac. La couleur est aussi très présente dans votre roman Des regards. Le photographe Laurent Mallet, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, travaille énormément par analogie aussi,
oui,
chromatique.
Et son regard est le personnage central de Camille, de Crash au Soleil, c'est Félix, qui est
malvoyant,
comme ça, apparemment. Mais qui est malvoyant parce qu'en réalité, il a des préférences inconscientes. Tout d'un coup, il voit une lumière. Et cette lumière lui plaît. Et la lumière peut être quelqu'un. Mallet, c'est un peu ça. Il se balade dans les musées avec son appareil photo de façon... sans faire poser les gens. Il n'y a aucune embuscade. Et à un moment donné, quelqu'un passe devant une toile et il trouve... instinctivement, comme ça, une correspondance, et tac. Et il prend 500 photos dans la journée, quand il passe 2 ou 3 heures par jour. Parce que le nombre de photos prises dans sa vie, c'est faramineux. C'est de l'ordre de 50 000, 100 000, enfin, on ne compte plus. Et moi, qui en ai vu beaucoup, beaucoup, je suis sidéré, mais sidéré, par la... familiarité qu'il capte entre quelqu'un et son tableau. Un peu comme le Félix de Camille capte. Mais alors, il y a dans le roman de Camille, il y a un personnage très très important qui s'appelle Vérité, qui en réalité est complètement largué, mais complètement largué parce que habité par une espèce de vérité des êtres, quelque chose qu'elle perçoit et qui va se réaliser dans le livre. C'est très très beau. Mais le Mallet, ils ont ça, les photographes. Doineau était habité par une vérité. Mallet est habité par une vérité, et ça se transforme en photo. Et tout d'un coup, vous avez des photos qui sont des évidences. Et quelles sont ces évidences auxquelles que les photographes réussissent à sortir du réel? C'est ce à quoi personne d'autre ne s'intéresse. Personne que, par hasard, tout d'un coup, paf, et on a une évidence.
Et c'est pas la mission aussi des romanciers, de percevoir d'autres vérités?
Qu'est-ce qu'elle dit,
Camille
la romancière?
C'est vrai que c'est toujours une question de regard, même pour la personne qui écrit, je pense. C'est juste que dans un regard, il y a ce que je sais, il y a ce que je vois, il y a ce que je devine, il y a ce dont je me souviens. Et quand on veut transformer ce regard en roman, ou en photo, ou en peinture, je pense qu'il y a une volonté et une intention de montrer quelque chose qu'on a vu. Un petit décalage qu'on a vu, peut-être.
Et la vérité, elle n'est pas au même endroit que dans la photo.
Mais la vérité, elle est très relative. parce que même dans l'œil du photographe qu'on a ici, il arrive à faire sortir de ses photos une complicité et un échange entre les gens et les œuvres qui est assez rare, en fait, qu'on voit rarement comme ça.
La couleur, c'est aussi ce qui est premier chez les enfants. Est-ce que vous pourriez nous raconter, Daniel Pénac, le jeu que vous faisiez avec vos élèves quand vous étiez enseignant au collège en guise d'initiation à l'art?
Ouais, il y avait un éditeur qui avait fait faillite et il avait mis sur le marché, sur ton marché, Camille.
Chez un bouquiniste.
Chez les bouquinistes, des tonnes et des tonnes de fascicules où il y avait tous les écrivains, tous les peintres du monde. Et j'en avais rempli des brouettes et des brouettes fictives que j'avais amenées dans mes classes. J'avais donné ça à mes élèves. Et alors, le jeu consistait, ils choisissaient leur toile préférée. Et le jeu consistait, une fois qu'ils avaient leur toile devant eux, de faire une liste de mots automatiques. Aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Alors, quand ils étaient petits, les sixièmes, ils énonçaient, c'était mignon, parce que ça commençait par des tout petits mots bêtement utilitaires. Tableau, peinture,
dessin,
couleur, toute nue, etc., etc. Puis ça s'arrêtait vite. Alors, je disais, à quoi tu penses? Il me disait, rien, Marc, rien, et continue. Et petit à petit, et quand on avait lancé ce mécanisme-là, on s'apercevait que les gosses étaient infiniment plein de vocabulaire, qu'ils en étaient sciés eux-mêmes, au point que leur liste contenait quantité de mots justes qu'ils comprenaient pas le sens. Et un jour, il y en a un qui, en voyant une toile de je ne sais qui, de Braque, avait fait une liste de mots et ensuite, uniquement en choisissant des mots dans sa liste, avait reconstitué un tableau à la Braque, uniquement en passant par les mots et sans revoir l'image initiale. Alors on jouait à ça. Il y avait aussi un sujet de disserte qu'ils aimaient beaucoup, c'était « Vous êtes votre toile préférée, racontez ce que les gens qui vous regardent disent de vous ».
Ouais, il y avait déjà le regard. Cette obsession du regard.
Oui, on jouait à ça.
Alors c'était plus une initiation à l'écriture qu'à l'art, finalement.
C'était les deux.
C'était les deux, oui.
C'était les deux. Ça produit des mots. Un tableau, ça finit par produire des mots.
Camille Goudeau, Daniel Pénac, on revient dans un instant. On entrera plus en détail dans vos livres. Mais d'abord, on écoute Yves Nice, Radio Cotonou.
Je fais des sous pour aller où? Je suis sous panier, aller où? Tiens nous têtes si t'as les couilles, j'tiens le max si t'as les housses. Dans le canap, je suis calé sous canage, j'ai calé tout. En se face des bouffons qui rendent pas les coups. Je suis à Paname, à Milan, des zéros sur le bilan. 5 euglots, ma boca, je fais des sous en tirant. On me voit comme un tyran, je me vois tant, c'est un tyran. Je pleura, c'est kiffant. Et surtout quand ils mangent. Surtout quand ils mangent. Surtout quand ils mangent. Tous ces MC ménopausés font croire qu'ils ont encore des gosses. Allez, ferme ta gueule et laisse mes négros poser. Nouveau sac pour madame, je suis à côté du 16. Je peux plus rapper banal, faut la beauté du geste. Cette merde, j'en rêvais quand j'étais tout skinny. Quand j'avais que là dans les bras, je laisse zéro gambas traîner dans mes fettuccini. Encore moins ces chiens traîner dans mes pattes. Y'a de quoi fumer dans mes packs. À quoi de fumer dans les packs. Sauf d'autres à la Fnac. Les TCD qui traînaient dans les bacs. Ce soir pour le dîner, je suis sous Limoncello 8. Je me roule le cigare dans Chelotti, mais je me financerai pas ni un VVS. Si son BBL, je peux monter d'au moins 10 vitesses selon BPM Renoir. Selon BPM Renoir. Tu veux la qualité, c'est nous la qualité. Première ce plat en restant chill pour fouetter la. Pour fouetter la prod, j'en même pas les deux mains de la veste en jean. J'fume un gros J, la moula me fait cogiter. Maman elle me dit que je suis un prodige qui me voit comme un produit. Et si à ma tête au JT, viens pas faire crarité mon brody. Crarité mon brody, toi, viens pas me raconter trop d'histoires. La micelle est bougie, mon joint c'est une bougie. J'parle qu'à mon chromie le soir. J'ai tellement de sons meilleurs des tiens qui vont jamais sortir. Et tu le sais très bien, pour ça que tu viens gratter comme des sorties. J'apprécie si le caramas est ouvert. J'passe à l'épice si le gazin est ouvert. À Paname c'est Prada, au bled j'ai mon bazin. Dans le jardin mon bassin, dans le salon mes couverts. Je fais des couverts en argent pour manger mon grec. En voiture pour ranger mon break. Je fais des couverts en argent pour manger mon grec. En voiture pour ranger mon break. J'ai découvert en argent pour manger mon grec. En voiture, et pour ranger mon break. Manger mon grec, en voiture. voiture pour ranger mon break. Yeah.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie des romanciers Camille Goudot et Daniel Pénac. Dans vos livres, à tous les deux, il y a une question centrale, celle du hasard. Une rencontre hasardeuse chez vous, Éléonore, et le hasard qui guide les pas du photographe Laurent Mallet dans les musées. Quelle part laisse-t-on en littérature à l'accident, à ce qui advient sans qu'on l'ait prévu, Camille Goudot ?
Ah ben c'est compliqué.
C'est pour ça que je pose la question.
C'est très très compliqué, parce que si on se dit qu'on mise sur le hasard en construisant le livre, on peut facilement tomber dans quelque chose de trop gros.
Et vous, comment vous travaillez, par exemple ? Est-ce que vous faites un plan ? Est-ce que comment les idées vous viennent ?
Moi, je fais pas de plan. J'avais un début et une fin pour ce livre-là. Et surtout, j'ai commencé à écrire ce livre quand je travaillais au cabinet de la ministre du Travail et que j'étais hôtesse d'accueil là-bas.
Oui, parce que ce personnage a quand même un peu de vous.
Oui, beaucoup d'ancrage. Et j'ai commencé... En fait, quand je suis arrivée là-bas, c'était un univers qui était tellement particulier, qui était tellement hiérarchisé, qui était tellement divisé, que je me suis dit qu'il fallait écrire quelque chose là-dessus. Et donc, comme j'avais pris ce job-là pour pouvoir avoir un endroit pour écrire mon premier roman, j'ai pris des notes pendant tout mon contrat là-bas, qui a duré un an et demi. Et ensuite, j'ai commencé à écrire Crash le soleil, mais j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver la voix d'Éléonore, parce que j'avais besoin de quelqu'un de détruit. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas comment elle allait exister avec ce jeu et sa parole.
Et la question du hasard à l'intérieur du livre, comment elle
ça.
Se dessine. Non, mais c'était intéressant, c'est pour ça que je vous ai laissé.
La question du hasard à l'intérieur du livre, c'est surtout des rencontres qui sont fortuites, et c'est des gens qui ont besoin de quelque chose à un moment donné, et ce quelque chose arrive. C'est l'histoire de Félix qui perd un objet qui lui est très très cher, qui est une araignée dans un pot à confiture.
Une araignée colorée, d'ailleurs.
Voilà, qui est bleue et jaune. Et au même moment, Vérité commence à dessiner sur les murs ce personnage d'Éléonore qui est tout en bleu et en jaune. Et lui, qui est face à un deuil et à la perte d'un objet, s'accroche à cette peinture, en fait. Et c'est ce qui lui permet de tomber amoureux, de s'accrocher à quelqu'un qui, a priori, n'existe pas. Voilà, le hasard, il se fait par des petits éléments qui viennent s'ajouter les uns aux autres.
Et puis, est-ce que l'amour, c'est pas toujours une fiction, d'une certaine manière, Daniel Pénac?
Elle me demande ça à moi.
Je vous demande avec votre expérience.
Qui, il y a 45 ans, a entendu sonner à sa porte, a ouvert cette porte et en a pris pour perpète. Parce que la fille qui était derrière était la femme de ma vie.
Et elle est venue sonner chez vous ?
Elle est venue sonner chez moi, j'ai ouvert et paf, modification du rythme cardiovasculaire et voilà.
Ah oui, ce serait dans un roman, on n'y croirait pas.
Nabokov, c'est le hasard. En réalité, c'est le personnage central de tous les romans. De tous les romans du monde. C'est le hasard, c'est le personnage central de La recherche du temps perdu. C'est de tous les romans. Et Nabokov racontait cette histoire. Il disait, imagine un transatlantique. Tu vois un transatlantique, des vrais, hein, comme dans le temps, ceux qui fonçaient dans les icebergs. Là. Il y avait des salles de bal. Imagine un type en smoking. Il danse dans cette salle de bal jusqu'à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, il sort pour s'aérer un peu, quoi. Et il va à la poupe du bateau devant. Il respire, il retrousse ses manches. Et là, il éternue. Ah, tcha ! Et ses boutons de manchette tombent dans l'océan Atlantique par 2807 mètres de fond. Le même type, 6 mois plus tard, à New York, prend un poisson. Mange un poisson dans le restaurant le plus cher du monde et le plus célèbre. Le serviteur arrive et lui dit « Je vous le prépare ou vous le préparez vous-même » Le monsieur dit « Non, je vais le préparer moi-même. » Il prend son couteau et sa fourchette, il ouvre le poisson et les diamants ne s'y trouvaient pas.
La chute de cette histoire.
Nabokov disait, c'est ce que j'apprécie avec le hasard.
C'est très drôle. Écoutez, on va partir en Belgique pour retrouver Diane Plateux de la librairie Claudine à Vavre. Bonjour Diane.
Bonjour Lilia, bonjour Daniel Pennac et Camille Goudot.
Bonjour.
Dans cette émission placée sous le signe de l'absurde, vous avez lu les livres de nos deux invités et vous avez vu des correspondances fascinantes entre leurs textes.
Oui, tout à fait Lilia, il faut lire ces deux livres à la suite. Quelle bonne idée Lilia de les associer dans votre émission. Il y aurait beaucoup à dire, chère Camille Goudot, sur votre roman, sur chacun de vos personnages, sur leurs blessures intimes. Sur votre écriture aussi, sur son rythme et sa coloration, qui distingue et personnifie si bien Éléonore et Félix. Mais arrêtons-nous surtout sur le portrait d'Éléonore, projeté en grand sur les murs de Paris par une graffeuse anonyme. Comment ne pas rapprocher cette situation de ce dont vous venez de nous parler et que vous expliquez dans le roman des regards, Monsieur Pennac, un sujet de rédaction qu'un jour vous avez donné à vos élèves. Vous êtes votre toile préférée. Racontez ce que disent les gens qui s'arrêtent devant vous. Boutant le feu, dites-vous, oh rigolade. Quel bel exercice d'auto-estime. Et quel dommage, monsieur Pennac, d'avoir égaré les travaux de vos élèves. Combien on aurait aimé lire ça.
Oui, je les ai perdus.
Oui, vraiment, c'est dommage. Éléonore, elle, vit l'exercice en direct. Elle s'arrête, interdite, devant son portrait. Et elle voit les gens, dans la rue, la regardant. L'expression de son visage, ses yeux, son écharpe jaune comme un halo lumineux. Elle lit les commentaires laissés par les spectateurs d'elle-même sur les réseaux. Et pour une fois, profitons-en, c'est de l'amour qui est déversé, et non des tombereaux de haine. Car à son corps défendant, Éléonore diffuse une aura dont elle n'a aucune conscience, tellement cabossée que, en toute occasion, elle se hait. Et nul n'étant prophète en son pays, il faudra passer par le regard qu'elle surprend l'autre posé sur elle pour se réhabiliter à ses propres yeux. Il est donc ici question de regard, et je vous conseille, chers auditeurs, de vous arrêter sur celui de Laurent Mallet. Il est là où il faut, juste au bon moment. Les correspondances qu'il souligne sont poétiques, drôles et joyeuses. Elles sont également merveilleusement anachroniques. Elle rapproche ce qui ne l'aurait pas été dans d'autres circonstances, donnant par là même une belle universalité à l'art, tout étant définitivement une question de regard.
Et Diane, vous aviez une question pour Camille Goudot, précisément sur le regard qu'elle porte en tant qu'autrice sur ses personnages.
Oui, Camille Goudot, dans votre roman, vous adoptez une approche différente selon qu'il est question d'Éléonore ou de Félix. La première personne du singulier pour Éléonore et la troisième pour Félix, que vous traitez en narratrice omnisciente. Pouvez-vous nous expliquer ce choix d'autrice ?
Oui. En fait, au début, je n'ai pas trop réfléchi, parce que je cherchais deux voix très, très différentes. Et au début, ça m'aidait pour l'écriture d'avoir un jeu. Et en fait, comme j'ai commencé à construire le texte comme ça, et ça a orienté aussi ma façon de penser l'histoire, et en fait j'ai ce jeu qui est collé à Éléonore parce que je suis collée à son corps et parce que c'est toujours de sa peau à elle qu'il s'agit, en fait, qu'on soit avec Félix ou avec elle, et j'ai choisi un côté un peu plus loin plus omniscient du côté de Félix parce que j'ai vérité qu'il l'accompagne et que c'était important aussi d'avoir des moments vraiment avec elle, parce que c'est un personnage que j'avais pas vraiment construit vérité au début, et puis petit à petit elle a pris de la place parce qu'elle me plaisait, parce qu'elle était drôle, parce que tout un tas de raisons, et parce qu'elle me rappelait des gens aussi, et donc voilà pourquoi j'ai fait ça.
Ah, merci.
Il avait moins besoin de vous, en fait, Félix, finalement.
Peut-être, il avait vérité.
Oui, il avait le révélateur de vérité.
Voilà. Vous, Daniel Pennac, au départ, à l'origine de votre livre, il y a un rendez-vous médical. Est-ce que vous pourriez nous lire un passage que j'aime beaucoup et qu'on trouve au début du livre ?
C'est pas à l'origine, d'ailleurs, c'est au milieu.
Oui, au milieu, mais bon, c'est le rendez-vous médical, ouais, qui crée la rencontre.
La vieillesse est moins un naufrage qu'une guerre de tranchées. Les missiles, les obus, les bombes pleuvent alentour. Des amis nombreux en meurent. Le chagrin est immense, mais ça n'a pas été notre tour. Vieillir, c'est cultiver le douteux remords de survivre. On voit disparaître une partie de notre monde en retardant de toutes nos forces le moment de quitter ce qu'il en reste. Notre propre départ s'annonce par des alertes, cœur, cerveau, poumons, reins, squelette, nerfs, sang, foie, intestin, mémoire. Les champs de bataille sont innombrables. Parfois, l'un d'eux s'embrase et nous voilà devant le polémologue idoine. Ce qui fut mon cas en février dernier, un gastro-entérologue qui m'auscultait à l'ancienne.
Et ce gastro-entérologue, qui est-ce?
Alors, qui est ce gastro-entérologue aujourd'hui à la retraite? Ben, c'était le photographe que je suivais comme un malade dans les musées, en me planquant. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que fait ce type à photographier les gens comme ça? C'est un maniaque? Alors je me suis mis à le suivre, ça c'est le romancier, la curiosité du romancier. Je l'ai suivi d'abord à Beaubourg, ensuite à Orsay, ensuite je suis sorti, j'ai suivi dans la rue d'Orsay, il m'a amené au Louvre, ou partout, il photographiait comme ça, les gens qui regardaient d'étoiles. Et puis un jour, je dois consulter un toubib, donc un gastro-entérologue, j'y vais, et quelle n'est pas ma stupeur de reconnaître ce photographe que je pistais dans les musées. Ce qui l'a bien fait rigoler, il a dit « Mais vous êtes aussi cinglé que moi, alors !» Et là, il m'a montré, il m'a expliqué la nature de son travail, et j'ai été sidéré par cette œuvre inouïe. Parce que, mine de rien, sans rire,
c'est on retrouve quand même le hasard, encore une fois.
Ah oui, là, oui, oui. Ah. Ben, le hasard de la rencontre, oui. Et le hasard de la rencontre, et le hasard dans une œuvre dévolue à des hasards. C'est-à-dire, il faut que un visiteur particulier passe devant une toile particulière, que Mallet a repéré la toile, et si quelque chose entre le visiteur et la toile concorde, paf, il prend la photo. Et encore une fois, des photos, il y en a des milliers. Et certaines sont mais absolument saisissantes d'identité entre le regardant et le regardé. C'est-à-dire, quand on va plus loin, entre deux époques, à quelquefois 500 ans de distance, et un centième de seconde qui saisit comme ça, le rapport entre ces deux époques, ces deux personnages.
C'est pour ça que je vous ai fait lire cet extrait sur le temps qui passe, puisqu'en fait, c'est ce qu'il y a au cœur de votre livre, et sans doute la raison pour laquelle vous êtes intéressé à ce photographe.
Non, je m'y suis intéressé d'abord, en le voyant. J'allais voir à Beaubourg un tableau de Miro qui est le Grand Bleu 2. C'était très précis, parce que c'était un souvenir de mes 20 ans. Qui est d'ailleurs un souvenir intéressant, à la Fondation MAG qui était en construction, je vois un gars accrocher ce tableau sublime, et quand il descend de son échelle, on se retrouve l'un à côté de l'autre, et je lui donne un coup de coude, je lui dis « c'est beau hein. ». Et le gars me dit « c'est pas mal, ouais ». Et il s'en va, et c'était Miro. 60 ans plus tard,
incroyable.
Je vais voir ce Miro, et en voyant ce Miro et en continuant ma promenade dans le musée, je repère ce photographe, qui donc photographie les visiteurs qui sont là et dont on peut se demander qui ils sont. Ça serait, je me suis posé la question, d'ailleurs vous pouvez vous la poser, comment appeler quelqu'un qui va dans un musée? C'est le seul lieu clos où il y a une foule immense de gens qui n'est pas de nom spécifique en rapport à ce lieu clos. Au cinéma, au théâtre, vont les spectateurs. Chez le toubib, vont les malades. En tôle, vont les prisonniers.
On dit les visiteurs, les touristes.
Dans
c'est pas des mots dédiés.
Dans le métro, les usagers, les électeurs vont voter. Bon. Et là, on n'a qu'un mot très générique.
Qui
est le mot de visiteur. Et qui anonymise, si je puis dire.
Les visiteurs, il y a encore cette idée de voyage temporel.
Oui, et les visiteurs ont un rendez-vous, en réalité. C'est bizarre, cette histoire de musée. Les visiteurs ont un rendez-vous dans un lieu public, avec une œuvre.
C'est un mot intéressant.
Qui a été conçue par un personnage singulier, pour un personnage singulier. Ça devait être dans une chambre, dans votre chambre. Voilà, ce tableau était fait pour vous. Et l'histoire de la peinture fait que c'est dans des musées de façon totalement anonyme, visités par des gens qui sont des foules encombrantes. Et dans ces foules encombrantes, Mallet crée des individus. Le visiteur devient vraiment quelqu'un. Devant une toile, devant Gogh, devant...
C'est ce que fait le romancier aussi. créer c'est des ce individus que fait, à partir
en l'occurrence ici, parce qu'il s'intéresse à ce sujet-là. Autrement, il en imagine beaucoup.
Et Diane, vous êtes toujours avec nous. Vous avez une question aussi pour Daniel Pénac.
Oui, il est des livres qui marquent profondément. Et moi, je me souviens précisément d'où j'étais lorsque j'ai découvert Monsieur Malocen. Un bonheur absolu de lecture. Dans la saga, vous maniez l'image en écriture comme personne. Encore aujourd'hui, dans le roman des regards, vous croquez les situations comme une caméra pourrait le faire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez cette écriture si visuelle ?
Ah, c'est-à-dire, ce sont des métaphores. Lorsque vous utilisez, à chaque fois que vous utilisez une métaphore, pourvu qu'elle soit juste, vous économisez une grande description, soit une description de paysage, soit une description de visage, soit une description psychologique. Mmh. Une petite métaphore de Chandler, par exemple, qui Chandler avait un héros. Le héros de Chandler a rendez-vous avec une fille très belle, une star. Bon, et le maître d'hôtel l'introduit dans un salon vide. La fille est évidemment en retard puisque c'est une star. Et là, Chandler est tout seul. Le héros est tout seul, il s'appelle Marlowe. Marlowe est tout seul, assis dans un fauteuil, et il dit ceci, il dit « La moquette était si épaisse qu'un chihuahua distrait aurait pu s'y perdre jusqu'à la dépression nerveuse. » Et vous avez tout avec ça. La description de l'intérieur de la tête de la fille qui l'attend, l'immensité de la richesse, donc de la solitude, etc. Voilà à quoi sert une petite métaphore.
Camille Goudot, Daniel Pénac, dans un instant, on parlera justement de vos techniques d'écriture à chacun.
Great rain came, touching infinity's prison. The creature made a war. Take the plane to Saturn. Oh, follow the Indian. Celebrate their Lord. It knows Mr. Cheyenne. It's a crucified photo of the wrong century.
Yeah.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Christophe et Alan Vega, Tangerine. Et nous sommes toujours en compagnie des écrivains Camille Goudot et Daniel Pénac. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Alors je le disais tout à l'heure, vous avez tous les deux des écritures très fluides, très imagées. Camille Goudot, il faut quand même qu'on dise un mot de votre style, de votre langue. Et pour ça, j'aimerais, si vous le permettez, lire un passage de votre roman, le moment où votre héroïne raconte pourquoi elle est partie, pourquoi elle a quitté son compagnon qu'elle appelle effectivement chéri, partie du roman. « Je ne sais plus. Hier, ça me paraissait clair, je suis partie parce qu'il allait y venir. » Une histoire bête du quotidien. Il y a quelques jours, je me suis assise sur le canapé, il m'a regardée, énervée par ma façon de plier les jambes, et il a dit « J'ai envie de te foutre un pain. » Et moi, j'ai pas peur des pains, mais je sentais sur moi ses yeux qui percent. J'ai pensé que c'était pas juste une image comme ça. J'ai pensé que cette fois-ci, il allait bel et bien me démolir pour de bon. Je me rappelle ce soir-là, toute crevée du ministère et des transports que j'étais, j'ai pas dormi. Au lit, je me suis laissée faire comme d'habitude pour avoir la paix, puis de toute façon, je m'en fous, je ressens rien, la sexualité, c'est pas très important pour moi, juste un temps qui doit passer. Le sexe, c'est une salle d'attente, tu comptes patiemment les grilles du radiateur. Je reprends mon téléphone, il m'aurait pas démoli, c'est moi qui projette n'importe quoi. Jamais de la vie, il l'aurait fait, je suis folle de penser ça. Il m'aime, c'est juste qu'il sait pas trop comment faire. Mais tout de même, cette nuit-là, j'ai gardé bien ouverts mes deux yeux jusqu'au lever tardif du soleil d'hiver. Je finis par écrire « Je suis partie, je reviendrai pas. J'habite ailleurs, ne t'inquiète pas, c'est fini. » J'envoie le message. Camille Goudot, votre écriture donne le sentiment d'être très naturelle, très spontanée. Est-ce que vous écrivez ces passages-là, par exemple, vous les écrivez d'un jet? Ou est-ce que vous retravaillez énormément?
Ça dépend des passages.
Celui-là, par exemple?
Celui-là, je crois que c'était assez... Non, j'ai mis du temps à l'écrire en vrai. Non, puis de toute façon, moi j'écris à la main et après je reprends sur l'ordi. Donc j'ai de toute façon deux versions.
Et quand vous reprenez sur l'ordi, c'est pour... Vous enlevez...
Je change toujours des trucs. Je sais pas comment font les autres, mais en tout cas, c'est pas. J'arrive jamais à faire juste du recopiage de ce que j'ai déjà fait. Ça existe.
Vous réécrivez.
Oui, c'est toujours.
Et comment vous en êtes venu à l'écriture? Vous êtes bouquiniste, je crois.
Oui, mais l'écriture c'était là avant. En fait, je suis devenue bouquiniste parce que je cherchais un métier qui me permettrait d'écrire.
D'avoir le temps d'écrire.
De m'organiser pour, etc. Et non, j'ai écrit depuis que je sais écrire. Je veux écrire des histoires parce que j'étais comme ça quand j'étais petite. Déjà, je voulais écrire des histoires. C'est parce que ma mère, elle me faisait raconter des histoires tout le temps. Elle voulait que je travaille énormément l'imagination. Et elle était professeure des écoles, d'ailleurs. Elle faisait beaucoup ça avec ses élèves et elle l'a fait avec moi aussi.
Est-ce que vous pensez au lecteur quand vous écrivez, Camille Goudot?
Oui, tout le temps. Tout le temps, je passe mon temps à me demander est-ce que c'est chiant ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça va les emmerder? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille un petit peu plus vite? Parce que là, c'est trop long ma description, ils vont tourner la page, ils vont s'en aller, ils vont arrêter. Enfin, c'est toujours ça, oui.
Et vous, Daniel Pénac, est-ce que vous pensez au lecteur?
La question du lecteur. Oui et non, parce que ça, quand vous écrivez, vous avez rarement de retours d'écriture. Vous avez des retours anecdotiques sur l'histoire, sur la structure, sur ce que vous voulez, des retours politiques. Mais une phrase dont vous auriez la faiblesse d'être très 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 content, vous n'en entendrez jamais parler. Ce qui fait que le lecteur idéal, le lecteur dans lequel on projette, c'est une image de nous-mêmes lisant. Et c'est une image de nous-mêmes lisant pendant que nous sommes au comble de l'excitation de l'écriture, dans le moment où tu es le plus content de toi. Ah, ça, c'est fort.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas trop se fatiguer?
Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est une illusion d'écrire pour des lecteurs. Nous écrivons, les gens lisent, et entre le chemin... Entre le moment où je pose la phrase sur la feuille ou dans l'ordi et le moment où quelqu'un reçoit cette phrase via la publication du livre, il s'est passé tellement d'intermédiaires, tellement les singularités sont si différentes. Ce lecteur a si peu à voir avec moi. Son état émotionnel du moment est tellement différent du mien au moment où j'écrivais que c'est il est vain d'espérer trouver.
Et donc la rencontre entre un lecteur et un roman, ça a quelque chose de miraculeux.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des lecteurs qui s'attachent à des voix. Lecteurs qui s'attacheront aux voix de Camille liront Camille. Ils peuvent s'attacher à une voix au point de désirer la réentendre. C'est ce qu'on appelle lire à nouveau. Ils liront le suivant, etc. Ils sont attachés à des voix qui sont... cette voix est le produit du style, bien sûr.
Bah écoutez, on va poursuivre cette conversation sur la lecture et le goût des livres dans quelques instants avec le conseil de la semaine. Mais d'abord, on écoute Mickey, ça pique un peu quand même.
Il y a des pistes dans ses yeux, pistaches, et je peux pas m'y faire. Il y a des bots qui font tout à notre place, à partir un coup quand on n'a rien à faire. Sourire avec les yeux quand tu sais si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers. C'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire. J'essaie de trouver la femme, mais y'a rien à faire. Je raccroche mon tel, je me parle à moi-même. Mais de fou, c'était ça que je voulais au début. Moi aussi, ouais, putain, trop bien. Être pote, c'est ça. Ça tombe à pic. Mais c'est pic, 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic, tic, un peu quand même. Pic, pic, ça me fout la haine. Mais c'est pic, 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 un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic, tic. On peut quand même, pipi, s'en fout rien. J'suis comme un célibataire de 30 balais. Quand ça sonne à ma porte, c'est pour voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi j'suis là, j'ai des times et des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, j'pensais que tu viendrais, mais j'suis solo. Du coup, je reste dans ta friendzone. C'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip ça me fout la haine. Mais c'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip ça me fout la haine. Ça fait pic 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 pic. Ça fait
bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission etc. Nous sommes toujours en compagnie des romanciers Camille Goudot et Daniel Pénac. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine.
Au livre, etc. Lilia Hassem.
Et mon conseil de la semaine, c'est un premier roman qui vient d'obtenir le prix des lecteurs de la RTS, la radio-télévision suisse. Ça s'appelle Le secret de Tircé. C'est publié aux éditions La Tribu et nous avons la joie d'avoir par téléphone l'autrice de ce très beau livre, Aline de Sarzens. Bonjour Aline.
Bonjour, comment ça va?
Ben ça va très bien et vous?
Mais très bien, je suis très heureuse de vous parler, merci.
Alors votre livre, c'est l'histoire d'une étudiante, Paola Tezzi, qui souhaite obtenir un poste universitaire à Montréal et qui s'engage dans une enquête transhistorique pour retrouver un poème perdu, celui de la poétesse grecque Tircé, dont il ne reste qu'un seul vers transmis par l'Antiquité. « Moi, Tircé, j'aime Sappho ». Je crois savoir que vous avez vous-même étudié les lettres classiques, mais comment vous est venue l'idée de ce roman ?
Oui, c'est ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la poétesse grecque archaïque Sappho et sur les traductions de ses fragments. Ça a beaucoup nourri ce roman, en fait. Et ce qui me touche chez elle, c'est justement cette idée de l'incomplétude, du mystère un peu merveilleux. Comme ça, on possède que quelques bribes de la poésie de Sappho. On n'a que quelques fragments qui ont survécu sur les 9 livres qu'elle aurait écrits. Donc, parfois, même un seul mot rescapé, comme ça, sur un papyrus, on n'a qu'un seul poème complet. Donc, vraiment, le corpus, il est extrêmement morcelé. Et c'est un corpus très frustrant, d'un côté, mais aussi
mystérieux.
Un peu merveilleux, mystérieux, oui. Parce qu'on se dit que, malgré tout, il y a des bribes qui nous sont parvenues. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de cette aventure autour d'un poème qui essaie de traverser le temps.
Ah, vous faites dialoguer 4 époques. l'Antiquité grecque, le Moyen-Âge, le XVIIIe siècle et aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de construire une intrigue comme ça à travers les siècles et, et question subsidiaire, quelle époque vous a donné le plus de fil à retordre?
Ah ok, bonne question. Alors au début c'est sûr que j'avais ce poème perdu, un peu c'était mon, c'est mon mystère, voilà, c'est ma trame, voilà, j'avais ça et je me suis demandé au fil du temps mais qui aurait pu tomber dessus, qui aurait pu le copier, le protéger, donc c'est comme ça que me sont venues ces différentes époques et j'ai voulu montrer en quelque sorte une longue chaîne humaine en fait, qui permet à ce texte de survivre et donc j'ai construit le roman comme ça, un peu en tissage avec ces époques qui posent des questions, après l'autre époque répond à la question de la précédente, comme ça. Donc on va un peu en zigzag entre chaque époque. Et celle qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est clairement l'Antiquité, parce que c'est ce qui comptait le plus à mon cœur, la poésie de Sappho. J'avais envie de faire entendre un petit peu de cette ambiance et j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour y réfléchir. C'est pas le... On va dire en termes de mots, c'est pas le plus, c'est pas là où on est le plus dans le roman, mais c'est là où je pense où j'ai le plus travaillé. Oui, c'était très important pour moi et voilà, ça m'a donné beaucoup de fil à retordre, mais je suis quand même contente du résultat. Voilà.
Daniel Pénac, on l'étudie pas la poésie de Sappho à l'école. Est-ce que vous, c'est une poésie que vous connaissez?
Ah non, d'abord je suis à la retraite depuis très longtemps et je ne pense pas qu'on étudie Sappho à l'école. Non, ouais.
Moi, j'en avais entendu parler au lycée, mais très peu.
Bien sûr. Oui, oui, le nom, bien entendu.
Aline de Sarzins, le roman pose une question vertigineuse. Que devient l'art quand il disparaît? Vous écrivez que l'art de Tircé a peut-être brûlé avec la bibliothèque d'Alexandrie ou était perdu dans l'oubli humain. Comment avez-vous abordé cet enjeu de la mémoire amputée, justement?
Oui, c'est ça, j'avais envie de parler de cette mémoire qui est très fragile, en fait, quand on pense des fois qu'il y a des textes qui survivent sur un seul support. Il y a quoi devenir fou, quoi. On se dit il y a des manuscrits qui vont peut-être brûler ou qui sont déjà perdus, on ne sait pas où, dans un sous-sol d'abbaye. Donc, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté de l'endurance. Il y a en fait des textes qui survivent ou des sauvetages immenses où tout à coup on retrouve justement une voie antique. Moi, c'est sûr que je me suis plus intéressée au côté antique de la chose, mais j'avais vraiment envie de parler de ça. Autant l'immense fragilité, et ça rend presque fou, et d'un autre côté, il y a quelque chose aussi de très solide, de très endurant. Et j'ai aussi un peu mélangé ça avec une mémoire plus personnelle, la mémoire par exemple qu'on a après un deuil, etc. Donc il y a un peu ces deux choses dans le roman, une mémoire commune, littéraire.
Oui, il y a la quête commune, aussi de votre héroïne.
Exactement, elle a une mémoire un peu plus personnelle qui finalement, elles ont beaucoup de points communs, ces deux mémoires-là. Donc voilà, j'ai joué sur ces deux tableaux-là, on va dire.
Alors il y a beaucoup de scènes dans votre livre qui montrent des hommes cherchant à confisquer l'histoire des femmes ou à s'approprier leur découverte. Est-ce que c'est aussi un roman c'est un roman, entre guillemets, qui lutte contre l'effacement des femmes artistes?
Oui, c'est un peu ça. Oui, j'avoue que j'avais pas peut-être le but premier de parler de ça. Je me suis pas fixé ça dans l'écriture, mais je crois que c'est venu assez naturellement. Je pense que lorsqu'on a des convictions, elles s'installent un peu d'elles-mêmes et quand on raconte une histoire, on peut pas vraiment s'en empêcher. Donc oui, c'est sûr que beaucoup de femmes dans mon roman ont différents degrés d'empêchement et c'est vrai que ces entraves sont souvent créées par des hommes, même s'il y a aussi des hommes, des personnages hommes qui sont très géniaux dans mon livre aussi, ce n'est pas que les hommes sont méchants et les femmes sont entravées par eux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes thèmes, peut-être, je ne sais pas, là, on pense le fait qu'elle lutte pour ce poste et que ça semble, voilà, quelque chose que des femmes peuvent, un problème dans lequel des femmes peuvent encore se trouver, le fait qu'on puisse préférer un collègue masculin à elle, même si, les compétences sont les mêmes, donc j'ai voulu, parler de différentes sortes d'empêchements et d'entraves que rencontrent les femmes dans différentes époques.
Oui. Ben écoutez, c'est réussi, merci beaucoup Aline de Sarzins. Puisqu'on est dans la partie conseil lecture, j'aimerais qu'on retrouve notre libraire Diane Plateux. Diane, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis toujours là.
Vous aviez une question à poser à Daniel Pénac sur la lecture?
Oui, tout à fait. Vous avez souvent parlé, y compris dans vos livres, de votre double expérience, de cancre d'abord, et puis de professeur de lettres. Et nous, libraires, on est un peu effarés par la dernière étude du Centre national de la lecture en France, qui révèle un décrochage violent de la lecture en France, mais le constat n'épargne pas la Belgique, évidemment. Vous qui en avez fait votre profession, comment redonner le goût de la lecture à nos jeunes et à nos moins jeunes par la même occasion ?
Ma première salle de professeur dans laquelle je suis rentré, c'était 1969. La première parole que j'y ai entendue, c'est « ils ne lisent plus ». Donc il y a une constante, déjà, dans la déploration des adultes, parce que les enfants ne lisent pas. Et la seule réponse, c'est partager. Vous aimez, mais vous lisez ? Je réponds par mais vous lisez, vous, oui ? Non ? Oui ? Alors partagez. Si oui, partagez, et partagez vraiment. C'est-à-dire, commencez à faire de la lecture à vos enfants quand ils sont petits. Ne les lâchez pas quand ils vont à l'école. Continuez à leur lire ce que vous aimiez lire. D'autre part, on ne peut pas déplorer que des enfants et des adolescents ne lisent plus quand toute la société commerçante autour se ligue pour qu'ils ne lisent plus. Via les écrans, via... Tout est absolument fait, tous les produits qu'on leur propose d'acheter en les tentant à mort sont des produits anti-livres. Donc, alors, tant qu'à faire, une des premières choses, ce serait de réfléchir contre cette logique marchande qui fait que les élèves sont avant tout des clients, que les enfants sont avant tout considérés comme des clients, que les adolescents sont avant tout considérés comme des clients. Si vous voulez que ils soient considérés comme des clients de librairie, il faut leur lire des choses qu'ils vont aimer, partager tout ce que nous avons aimé, et que les professeurs de lettres aient à cœur, avant de faire de la littérature médico-légale en disséquant de tout petits morceaux, de partager les lectures qui eux-mêmes les ont fait voyager, qu'ils ont
adoré. Ça fait rire Camille Goudot, qui est à côté. Camille Goudot, vous qui êtes bouquiniste, comment est-ce que vous constatez vous-même cette perte du goût de la lecture, ou au contraire, est-ce que vous avez bon espoir ?
C'est pareil pour nous. Là, on vend le livre, c'est du militantisme. Mais ça fait longtemps qu'on dit ça. Ça fait longtemps qu'on parle des choses comme ça. Là, nous, l'avantage qu'on a, bouquiniste, sur les quais de Seine dehors, c'est justement d'être dehors. Et comme on n'est pas, le magasin, on est pile cet endroit qu'on peut faire coloré, qu'on peut faire attirant, dans lequel on peut proposer tout un tas de livres. Pour ma part, je propose pas mal de science-fiction, notamment.
Parler de vos goûts, en fait.
Voilà, qui pourraient attirer les jeunes. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on essaye de faire, et notamment en amenant dans la corporation des bouquinistes de plus en plus de jeunes, avec des goûts jeunes. Et je pense que le fait de ne pas entrer dans une boutique et de passer devant les boîtes et d'avoir le regard attiré par les livres comme ça,
ça change tout. Oui.
Peut-être qu'on a quelque chose à jouer, nous, bouquinistes, là-dedans. Peut-être qu'on peut apporter un truc à un moment donné, parce qu'en plus, on n'est pas cher.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Je recommande vos livres à tous les trois. Camille Goudot, Crache le soleil, paru chez Michel Lafon. Un roman solaire qui suit une jeune femme en reconstruction et parvient à saisir, dans une langue d'une intensité rare, ce qui vacille, ce qui résiste, et la lumière qu'on parvient parfois à tirer de tout ça malgré tout. Je recommande aussi votre livre, Daniel Pénac, avec les photographies de Laurent Mallet, Le roman derrière, aux éditions Philippe Ray. Un dialogue sensible entre un écrivain et un photographe, mais surtout un livre sur la grâce de ces instants où un tableau rencontre un regard. C'est une méditation drôle, tendre et très fine sur ce que signifie vraiment regarder. Et enfin, on vient d'en parler, Aline de Sarzins, Le secret de Tircé, publié aux éditions La Tribu, un roman enquête qui traverse les siècles pour ressusciter la voix d'une poétesse oubliée. C'est à la fois un suspense érudit, une réflexion sur la transmission et un hommage à toutes les œuvres que l'histoire a tenté d'effacer. Merci enfin à notre libraire du jour, Diane Plateux, ainsi qu'à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Laurent Baudouin à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle que Livre etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.